En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent : Tout le monde te cherche. Jésus leur dit : Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Serions-nous déjà entrés en carême que les textes de ce dimanche nous invitent à considérer cette nature humaine dans sa faiblesse et la nécessité de la bonne nouvelle. En effet, aujourd'hui, nous voyons la souffrance physique, la souffrance morale de Job. Dans cette souffrance, il nous est donné un message que les prêtres n'osent pas décrypter ou expliquer trop souvent. Et le Christ guérit la belle-mère de Simon d'une fièvre immédiatement. Et c'est la raison pour laquelle les hommes se disent « Mais si Dieu est si puissant et s'il est si bon, pourquoi il y a tant de malades ? Pourquoi il y a tant de souffrances ? Pourquoi il y a tant de guerres sur cette terre ? Mais la guerre, elle peut être expliquée par la méchanceté des hommes. Mais pourquoi les petits-enfants sont malades ? Pourquoi il y a des personnes qui sont si bonnes et si douces et qui ont un cancer ? » Eh bien, dans un premier temps, il nous faut bien comprendre que l'Église a choisi aussi de nous dire que le Christ proclamait cette bonne nouvelle face aux démons, et donc de comprendre ce qu'est notre esprit et les purs esprits qui n'ont pas de corps, qui ne sont pas de cette nature humaine, et alors nous comprendrons mieux la vie sur terre, son épreuve et en même temps sa solution par l'Évangile, par la bonne nouvelle. Mais tout d'abord, il nous faut bien comprendre que nous ne sommes pas des animaux comme les autres. Et si, grâce à Dieu, vous faites partie du grand mouvement du scoutisme, je parle aux enfants qui sont là, mais peut-être que parmi vous, il y en a qui en ont fait partie, mais on est scout toujours. Eh bien, cette nature qui vous permet de sortir de la ville le plus possible, elle est un reflet de l'intelligence, de la fantaisie et de l'amour de Dieu. Mais cette même nature est quand même parfois difficile, avec ses prédateurs, ses animaux, qui sont plus forts que les autres et qui en font leur nourriture. Et donc, nous-mêmes, alors que nous sommes tirés de cette nature animale, eh bien Dieu nous a donné une âme, un esprit qui dépasse totalement nos besoins terrestres. Et pourtant, ce corps, quand il est en bonne santé, quand il mange, quand il boit, quand il dort, quand il court, quand il fait du sport, quand il admire, quand il saute en l'air, lorsqu'il embrasse, lorsqu'il est dans la joie, eh bien ce corps est extraordinaire. Mais voilà que ce corps peut s'abîmer, que nous pouvons avoir un accident, que nous pouvons nous casser une jambe, que nous pouvons être renversés, que nous pouvons être malades, et que cette santé devient tout d'un coup fragile. Et sans compter le vieillissement de notre corps, qui est inexorable, et qui ne nous permet pas d'être en parfaite santé vers 128 ans. Mais alors pourquoi Dieu a-t-il fait ces êtres qui peuvent être fragiles? Mais il nous faut remonter aux anges, il nous faut remonter aux esprits. Eux n'ont pas de corps, et ils ont une vie de contemplation, d'admiration, de connaissance les uns des autres et de connaissance de Dieu. Savez-vous combien il y a d'anges? Des milliards de milliards. Un nombre absolument considérable. Alors que si l'on remonte à l'histoire humaine, on peut compter, grosso modo, d'après des spécialistes, des sociologues, des démographes, il y aurait eu environ 100 milliards d'hommes, 110 milliards sur la Terre, depuis que l'homme est homme. Tandis que les anges, ils ne sont pas 110 milliards, ils sont des milliards de milliards. Et pourquoi? Parce que Dieu veut être connu et aimé quand il transmet la vie. Or, ce n'est pas par égoïsme, ce n'est pas pour avoir beaucoup d'admirateurs, mais c'est pour leur transmettre justement l'intelligence, la vie. Et nous-mêmes, nous avons eu cette intelligence et cette vie. Et c'est extraordinaire. Seulement, cette puissance d'intelligence et de volonté, elle peut se tourner vers le néant. Elle peut se tourner vers le péché, vers ce qui est faux, et se détourner de l'amour. Lorsqu'on se dispute dans une famille pour rien du tout, lorsqu'on commence à crier, lorsqu'on commence à être agacé, frustré, pas content, eh bien, nous manquons de cette intelligence. Nous manquons de cette volonté. Parce que nous sommes faits, justement, cher ami, pour vivre en paix. Mais cette paix, elle nous demande des efforts, de patience. Vous voyez, ne vous inquiétez pas, ce n'était pas une grande bombe. Cette patience, cette compréhension, c'est la vie humaine. Et c'est la vie avec Dieu. Parce que Dieu ne nous fait pas une vie simple. Dieu nous fait une vie compliquée, où nous exerçons notre liberté en permanence, où nous avons à nous vaincre dans notre puissance d'égoïsme. En permanence, il nous met à l'épreuve. Et si nous avons changé le Notre Père pour qu'il soit plus compréhensible avec le français de nos jours, ne nous laisse pas entrer en tentation. Initialement, sachez que le mot tentation veut dire non pas être devant le péché, mais être devant une épreuve. Une épreuve où nous devons choisir entre le bien et le mal, et où nous devons choisir entre l'espérance ou la tristesse. Et les démons, eux, sont des anges qui ont choisi la lutte contre Dieu, qui ont désespéré de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu, pour se choisir eux-mêmes. Et l'homme a suivi cet exemple. Et l'homme est limité par sa maladie, par sa mortalité. Et Dieu nous fait bien comprendre que nous ne sommes pas tout-puissants et que nous avons des limites. Ces limites, on les trouve dans notre corps. Mais ces limites, nous devrions les trouver dans notre âme, lorsque nous sommes contrariés, lorsqu'on veut faire le mal. Lorsque la malice que nous pouvons choisir se trouve arrêtée par des êtres bons autour de nous, qui nous demandent de nous arrêter, qui nous demandent de nous calmer, qui nous demandent de nous convertir et de faire des efforts pour vivre en paix, pour être joyeux, pour faire tout ce qu'on veut, mais du moment que c'est le bien. Alors vous me direz, mais comment ça se fait que Dieu a choisi, parmi tous les moyens qu'il avait, de rendre notre corps mortel, profondément mortel, alors qu'il nous a donné une âme immortelle? Pourquoi il n'a pas empêché notre corps de suivre la loi naturelle des autres animaux, alors que nous avons une aspiration à l'immortalité, alors que nous désirons vivre, aimer à travers les années? Eh bien, c'est pour nous calmer, et j'ose le dire, pour nous humilier un peu, pour nous rabattre, pour que nous puissions comprendre que notre seul bonheur, c'est de nous aimer les uns les autres. Mais c'est tellement plat de dire « aimez-vous les uns les autres » qu'il nous faut justement un peu de piment dans notre vie et que Dieu nous met à l'épreuve de cet amour mutuel et des efforts que nous devons faire. Comme vous êtes les uns avec les autres, que vous sortez de votre famille pour vous confronter entre garçons avec une hiérarchie, des demoiselles qui sont là pour vous mater et pour vous dire ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est bien, ce qui est mal, et pour vous tirer vers le haut. Mais nous tous, nous en avons besoin. Alors le Christ est là pour nous dire « Je vous guérirai ». La Vierge Marie, des saints, ont obtenu des miracles physiques et corporels, mais tous n'ont pas été guéris. Jésus a guéri des milliers de personnes pendant ces 3 années où il s'est manifesté, mais il n'a pas guéri tout le monde, et il n'a pas empêché tout le monde de vieillir et de mourir. Mais il nous a donné la bonne nouvelle que la vie après la mort est une vie d'amour, est une vie de récompense, est une vie de retrouvailles, et non pas une sorte de mystère bizarre. La vie après la mort, c'est la récompense de tout le bien que nous avons fait. C'est le pardon du mal que nous avons fait. C'est une grande espérance. C'est une grande promesse. Et elle se trouve dans la résurrection. Et elle se retrouve dans la joie de la Vierge Marie, qui après avoir vu son Fils crucifié, le voit vivant. Hier, un monsieur me disait, « Mais après la mort, il n'y a rien. Je ne crois pas en une vie après la mort. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était triste. » Et je lui ai dit, « Mais vous aimez votre mère ?»« Oui, ma grand-mère est même avec moi. » »« Alors vous ne pensez que vous ne la reverrez jamais, que vous mourrez comme les moustiques, comme les pigeons ?» Je lui ai dit des choses moins dures, plus gentilles. Mais ce soir, ce matin, j'aimerais vous dire de croire en la bonne nouvelle et de vous préparer à un bon carême pour surmonter les épreuves de la vie et être dans l'espérance d'un Dieu qui s'est fait homme, né de la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.